Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Arrête.
Et on commence, Rémi, avec l'action du jour.
L'action du jour, après avoir réalisé des coupures de courant et même évoqué la possibilité de cibler ces mesures sur certains élus, la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie s'oriente davantage vers des opérations plus positives de gratuité pour protester contre la réforme des retraites. Voilà. Discutées en interne depuis près de 2 semaines, ces actions ont été évoquées publiquement hier par Renaud Henry, le secrétaire général de la CGT Énergie Marseille. Il explique concrètement, notre objectif, c'est de faire une manipulation sur le compteur que pour que, par exemple, des boulangers puissent avoir un tarif de 50 à 60% gratuit. L'action, je le précise quand même, est totalement illégale.
Oui, mais ça, c'est pas grave.
J'ai tendance à m'insurger contre ces abus de pouvoir d'un syndicalisme qui prend en otage. Et là, je ne peux que me satisfaire, comme quoi tout est relatif. Et là, effectivement, je connais tellement la détresse de certains boulangers dont certains ont fermé la porte, c'est fini. Hein. Qu'effectivement, si la CGT peut mettre sa puissance syndicale et son engagement politique et syndical au service de ces causes-là, là, je suis entièrement d'accord. Les autres me diront, si t'es d'accord pour ça, alors évidemment...
Exactement, il y a deux fois de me dire, tu peux pas être pas d'accord pour les mairies, être d'accord pour ça, même si moi aussi j'ai évidemment envie qu'on donne l'électricité
à moins cher.
C'est pas pareil. Il vient me dire que c'était illégal, Rémi.
Tu prends personne en otage,
c'est illégal.
Oui, mais c'est illégal. C'est illégal, d'accord.
Je parlais d'une coupure d'électricité générale, où je dis, là, vous êtes en train de pénaliser des travailleurs comme vous, c'est pas normal, c'est un abus de pouvoir. Et là, il me dit, je vais les cibler, et on va essayer de soutenir les boulangers qui sont dans la détresse. Voilà, là oui, là bien sûr. Alors,
si tu ne pénalises pas les syndicalistes, c'est qui ferait ça? Très bien. Demain, il y a une grève à la SNCF.
Mmh. Ah ben,
les contrôleurs décident de ne plus contrôler.
Très bien.
Les gens prennent le train gratuitement. Leur grève dure 4 semaines, un mois et demi. Imaginons, la SNCF se retrouve dans le rouge. Voilà. Et c'est notre argent qui va devoir enflouer.
Oui, mais là, c'est le boulanger, donc c'est pas ton argent.
SNCF, il n'est pas aussi abusif.
Non, mais c'est ouvert, c'est la porte ouverte.
Okay. Oui, mais le tarif n'est pas aussi abusif. Okay.
La SNCF, un train n'a pas le droit de partir s'il n'y a pas de contrôleur à l'intérieur.
Donc c'est
la porte ouverte.
Donc c'est voilà. Non, moi, je évidemment qu'on a tous envie d'être Robin des Bois et de donner de l'électricité à ceux qui n'en ont pas, évidemment. Mais à partir du moment où c'est illégal, c'est illégal. On peut pas avoir deux discours dans cette émission. C'est pas possible. Donc si c'est illégal pour les mairies, eh ben, c'est illégal aussi pour la CGT.
Le fournisseur se retournera contre le client à un moment donné.
Ouais, mais tu peux aussi te dire qu'il y a certains commerçants qui sont impactés par les mobilisations.
Par exemple,
t'es boulanger, t'es sur un trajet de Bastille-Nation, tu vas vendre moins de croissants,
ou plus.
Oui.
Non, moins, parce que souvent tu fermes ta boutique.
D'accord.
En espérant que la retrouver dans le même état le lendemain. Mais donc, les aider, après, c'est pas mal. Et tu prends personne en otage. Si t'aides le boulanger, le boucher du coin, c'est pas comme une mairie.
Et augmenter un petit peu le prix de la baguette. Faudrait qu'on ait avis avec sa fille d'impôt pour payer son pain, ça serait compliqué.
Oui, on peut être d'accord avec la CGT sur ce plateau.
Je trouve ça assez incroyable. Non, mais en vrai, je trouve ça évidemment très bien. Mais ce qui me rend triste à nouveau, c'est qu'on ait besoin d'en arriver là.
Oui,
comme les écolos là qui crèvent les SUV, que la CGT fasse ça, que les élus immobilisent la mairie pendant une journée pour la retraite. En fait, je trouve ça veut dire que notre démocratie ne fonctionne plus.
Malheureuse toute ta vie dans un système libéral où l'économie de marché règle.
Mais non, je crois qu'on peut changer ça. Je suis loin d'un discours fataliste. L'enjeu pour moi, c'est de reprendre la main et de montrer que c'est possible de faire différemment. Et ça demande du courage. Je pense que nos politiques n'en ont pas ou du courage d'apothicaire pour une réforme des retraites.
Aux élections.
Non. Exactement. Quand elles fonctionnent.
Rémi, on va passer à l'exclusion du jour.
L'exclusion du jour, Emmanuel Pellerin, député de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, a admis avoir consommé de la drogue, notamment de la cocaïne, avant et après son élection en tant que député du parti présidentiel. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre et Renaissance se prononcera sur son avenir au sein du parti ce lundi. Son exclusion sera examinée.
Faut le virer ou pas, Perico Légas?
Jamais j'ai fait ça dans cette émission, j'ai envie de dire Joker. Je sais que c'est interdit, vous ne supportez pas
interdit.
Ça. C'est sa vie privée. Est-ce qu'il y a eu une incidence sur sa vie de parlementaire?
Faut pas le suspendre.
Il a pas tapé sa femme?
Non.
Il a fumé un pétard?
Enfin, peut-être que si, mais on sait pas. Non, mais je rigole, mais non.
Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Il a pas tapé sa femme. Donc, forcément, ça nous ramène à Adrien Quatennens. Est exclu à peine 4 mois, autant dire, du pipi de chat. Et là, effectivement, il n'a fait du mal, j'ai envie de dire, qu'à lui-même.
Ça me regarde pas. Je vais vous dire, ça me regarde.
C'est pour ça que moi aussi, je suis embêtée avec cette affaire.
s'il est venu dans un état stupéfiant qu'il a fait une arme, d'accord. Ouais. Pour l'instant, on n'a rien su et il avoue lui-même. Vous voyez dans quelle société on est? On est quasiment dans le système de la Chine.
Parce que là, c'est sa vie privée.
On est obligé,
quand même.
Voilà.
Bah oui, c'est pour ça que moi, je suis un petit peu pareil. Je suis comme toi. Je suis un petit peu.
Après, c'est illégal. Hein. Vous n'avez pas le droit de consommer de la cocaïne. C'est illégal.
Ah oui. Bah, voilà. C'est illégal. Donc,
on a connu à l'Assemblée des députés alcooliques qui arrivaient en état d'ébriété, qui faisaient d'ailleurs des discours. Pierre-André Vizier.
C'est pas illégal.
Mais taper sa femme, c'est illégal.
Et c'est pour ça qu'il est suspendu. Mais voilà.
Pas de puritanisme institutionnel, je vous en supplie.
Bah oui, mais ça reste illégal, elle a raison. Hein.
D'accord.
Mais pour autant, on est un peu figé comme ça parce que.
Pas de morale et pas de puritanisme.
Mais oui, mais le problème, c'est que si tu dis ce qui compte, c'est de la justice, pas la morale.
C'est
aujourd'hui,
bien.
Consommer de la cocaïne, c'est illégal.
Oui, alors il l'a dit. Il l'a dit, voilà. Alors, enfin, il a. Oui. Allez, il a un blâme. On lui donne un blâme, ça vous va.
D'accord.
Qu'il revienne pas, attention, qu'il revienne pas une deuxième
fois. Ou du sursis. Non, mais je suis d'accord qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec taper sa femme.
Non,
c'est évident.
Il y a toujours
un
poids de mesure, de toute façon.
On le suspend, on l'absout, on fait quoi, Mathilde Emma?
Je suis assez d'accord avec Perico sur cet enjeu d'un blâme. En fait, pour moi, c'est plus une question d'éthique et de morale, de son rapport à lui-même par rapport au poste qu'il occupe. Est-ce qu'il a la dignité de vouloir rester et de changer de comportement ou de démissionner? J'ai envie de dire, ça le regarde. Moi, c'est quand on vient consommer ce genre de choses.
Et s'il est allé voir un jour une prostituée.
Et pour être honnête, je pense qu'on sait tous autour de ce plateau que c'est loin d'être le seul dans le monde politique, dans le monde des médias. Et donc, il y a peut-être aussi des questions sur pourquoi est-ce qu'autant de gens consomment dans ces milieux-là une telle coude.
Je crois que cette consommation de cocaïne, elle est galopante partout en France, dans tous les milieux.
Si vous saviez,
et notamment chez les jeunes. Voilà,
si
c'est pas juste dans les médias et la politique. Rémi, comment on a su d'ailleurs qu'il consommait de la cocaïne? Parce qu'il ne l'a peut-être pas dit sur les réseaux sociaux.
Non, en fait, c'est une enquête qui a été ouverte par le parquet de Nanterre. Et donc son nom est ressorti dans la presse. De quelle manière? Voilà, mais forcément, il a été obligé de
d'avouer, entre guillemets.
Voilà,
justement, l'alcool sans alcool d'Anthony Morel.
L'inquiétude du jour,
elle porte sur le label rouge. Ça va faire réagir Perico, je le sais.
Oui.
C'est lui d'ailleurs qui nous a alerté sur le sujet hier. La Commission européenne va changer les règles d'étiquetage des volailles. La filière française, elle, redoute que le fameux label rouge, spécificité hexagonale, n'y perde sa capacité à se distinguer.
Oui.
Selon l'interprofession française qui regroupe les représentants de l'ensemble des maillons de la filière, les labels de type fermier élevé en plein air ou encore fermier élevé en liberté pourraient disparaître pour être remplacés par des indications beaucoup moins précises.
Ça veut dire qu'en fait, on ne saura plus ce qu'on mange.
C'est quasiment une conquête sociale. Vous savez, il y a le poulet de batterie qui nous a envahis. Justement, il y a une filière française, les labels rouges, poulet de Louis, tout ça, c'était des marques, qui font un poulet sans qu'il soit absolument exemplaire. C'est quand même un travail énorme. C'est une conquête. L'éleveur, la souffrance animale, l'alimentation, les garanties d'environnement mental et surtout alimentaire qui sont formidables. Et là, c'est pas qu'ils sont supprimés, c'est que la Commission européenne de février va ouvrir cette labellisation. En fait, il va la déréguler. Pourquoi? Il y a des élevages industriels en Allemagne, en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, qui sont concurrencés par ces labels de qualité française. Donc, faut casser cette concurrence qui les embête. Et donc, ils auront droit de mettre poulet à l'air libre.
Élevé à l'air libre.
Ça veut dire que le consommateur saura plus faire la différence entre un vrai label rouge français qui deviendra facultatif et non plus obligatoire. Aujourd'hui, c'est obligatoire.
Mais si vous mettez poulet à l'air libre, c'est qu'il est forcément à l'air libre.
Non, il n'y aura pas de contrôle. La Commission européenne va autoriser des sociétés étrangères à mettre un mot label qui n'est pas un label officiel. Alors, poulet à l'air libre, il a la tête dans l'air, évidemment, l'air libre.
Non, mais c'est ça.
Il pourra se balader dans un truc en béton, voilà. Et donc,
le
consommateur n'aura pas l'information. Le label rouge continuera en France, mais il sera pas obligatoire. Donc, vous avez des filières qui ne mettront plus de label et les gens ne feront plus la différence. C'est une régression fatale. Tout ça pour faire plaisir aux Allemands. La France a essayé de résister. Et puis, la pression, je pense qu'on a dû nous échanger ça contre un petit peu de gaz ou je sais pas quoi, ou des chars léopards. Enfin, je peux pas le savoir. Mais en tout cas, c'est une régression dans la qualité alimentaire française qui était un combat formidable, un patrimoine, un acquis. Et là, les volaillers français qui se donnent du mal, en plus frappés par la grippe aviaire, là, il y en a qui vont payer. Je trouve ça lamentable.
Et merci de nous alerter là-dessus, Perico. Mais c'est vrai que ça paraît incroyable en ce moment, Mathilde, alors qu'on lutte justement pour le bien-être animal, pour le mieux manger, pour tout ça. Et là, en fait, on a l'impression d'être revenu 20 ans en arrière.
Je ne sais pas si on est revenu 20 ans en arrière, mais c'est assez souvent qu'on a des mauvaises nouvelles, je trouve, comme ça pour nos agriculteurs et les éleveurs. Tous les accords commerciaux,
TAFTA,
CETA et consommateurs, évidemment, en bout de chaîne. Je le disais tout à l'heure, hein, sur la question du bien-être animal, je crois qu'il y a un enjeu sur la question de l'élevage de manière plus générale. Et on n'arrive pas à avancer sur ce sujet, et je le déplore. Et je suis assez d'accord avec Perico que
ils veulent faire du fric facile.
En fait, je suis désolé, j'ai l'impression d'être en boucle pendant cette émission, mais ça, encore une fois, un enjeu de qui décide dans notre démocratie aujourd'hui.
Là, c'est
un certain nombre de lobbies qui sont vers les industriels allemands ou polonais, j'en sais rien. Font que notre réglementation régresse. Et le truc, c'est qu'on est dans un mouvement plus général où nos droits, nos réglementations régressent au profit de quelques intérêts privés qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent.
Et c'est une catastrophe pour les agriculteurs, évidemment.
Évidemment, parce qu'effectivement, ça va être un imbroglio pas possible. En fait, quand tu dis poulet élevé à l'air libre, j'ai fait quelques reportages dans la Bresse, au sud de Bourgogne.
Ou à l'air libre.
À l'air libre ou en liberté, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont dehors. Ça veut dire qu'ils ont assez de place pour se déployer à l'intérieur. Qu'ils ne sont pas à 12 dans une cage, ils ne sont que 10. non, mais tu vois, ils sont dans un grand hangar à l'intérieur, c'est très impressionnant à voir. Hein. Et c'est ça qu'on appelle à l'air libre. Ils ne sont pas du tout en train de picorer dehors. Hein. C'est pas
alors
forcément
liberté,
ça.
Si. En liberté, c'est carrément dehors, voilà.
Bah, ça le sera plus, de fait. Ça va
si
être
ça continuera à exister, mais tu pourras mettre un poulet en batterie, tu pourras dire qu'il est à l'air libre.
C'est n'importe quoi. On va complètement se mélanger. Et l'information du consommateur, à l'époque, tu sais, on avait dit la dernière fois que les pulls, ils allaient avoir des étiquettes qui vont payer 3 tonnes. Parce qu'on allait avoir tout un tas d'infos. Et là, sur le poulet, on régresse. Enfin, le poulet et puis d'autres choses après.
De toute façon, il y a 80% du poulet qu'on consomme en restauration scolaire, notamment, qui est du poulet.
Pour pas être fataliste, il y a aussi l'initiative qui émergent, qui sont très intéressantes. Je pense à C'est qui le patron, par exemple, qui est une coopérative de consommateurs qui pose eux-mêmes les critères, le prix. On sait du coup en toute transparence qui a décidé, qu'est-ce qui a été décidé, le prix, et c'est disponible. C'est aujourd'hui la première, le lait par exemple, c'est la première brique de lait vendue en France sans aucune publicité, donc on ne paye pas les tonnes de publicité aussi de ces acteurs-là.
Et on a cédé. Exactement. C'est un patrimoine alimentaire, la volaille.
On a cédé avec le TAFTA, avec le CETA, avec tous ces accords commerciaux qui mettent nos agriculteurs dans des situations très compliquées aussi.
Exactement. Le cours du jour.
Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, veut renforcer les compétences numériques des élèves et accélérer l'usage des outils informatiques à l'école, au collège et au lycée. Et ce, grâce à des mesures présentées ce matin, parmi elles, il n'y a pas que celle-là, mais parmi elles, comprendre et savoir utiliser les outils numériques, les algorithmes, l'intelligence artificielle, la programmation, et accéder aux premières compétences de codage, ce sera à partir de la rentrée 2024.
Ah, je vous sens pas convaincu.
Oui, parce que quand Claude Allègre a dit « c'est une priorité, il faut faire rentrer la tablette à l'école », il y a 20 ans,
catastrophe.
C'est génial. Catastrophe. Alors, est-ce que Pap Ndiaye veut réglementer ça, ou au contraire l'étendre et l'élargir? Moi, je crois que le numérique à l'école, c'est un outil aujourd'hui de notre civilisation, c'est incontournable. Mais dans la pédagogie, dans la transmission des savoirs et dans l'enseignement, je pense pas que la maîtrise des phénomènes numériques soit l'essentiel, vu l'état de scolarité des enfants et de l'école.
Oui, mais c'est notre société.
D'accord, mais à condition que ce soit pour un apport de rigueur et de qualité de savoir. Je suis pas sûr que ça soit ça la garantie.
Alors moi je suis complètement d'accord avec toi. On va peut-être déjà sécuriser les apports de base qui ne le sont pas aujourd'hui sur l'orthographe, sur les maths, etc. Ah, oui. Et pourquoi pas le proposer plutôt au lycée en option, par exemple, avec les options de première.
Apprendre à lire d'abord.
Que t'as déjà a priori un bagage et que là que tu le proposes pour des enfants, des élèves qui vont partir plus tard en informatique, je trouve ça super. Mais la plupart des gamins qui adorent le codage, ils attendent pas ça. Hein. Ils sont dans leur coin, ils sont sur Internet, ils sont déjà dessus.
Les gamins qui ils n'attendent pas les cours de
français. Cette formidable école 42, qui est un peu partout, là, ce qu'on appelle la piscine de Xavier Niel, qui récupère tous les gamins qui veulent y aller, il n'y a pas besoin de diplôme, machin, mais qui ont envie d'apprendre à coder. Et c'est un truc de dingue. Moi, j'ai un neveu qui est là-dedans. Et voilà, mais c'est peut-être un peu tôt quand même.
On a fait des consommateurs, on a fait des futurs consommateurs des produits commerciaux numériques. Voilà.
Et de toute façon, ils seront consommateurs à un moment, ils ne pourront pas y échapper.
C'est peut-être pas au rôle de l'école de la République de leur apprendre.
Mais c'est leur donner les codes, en fait. Peut-être
c'est trop tôt. Mais ils n'ont pas besoin de toi pour les codes. Ils chopent ça à côté, les gamins, si vraiment ça les intéresse.
Non, pauvre ministre, il n'a pas de bol. Hein.
Oui, il n'est pas vernis, vous avez raison.
Je ne veux pas l'accabler, c'est pour ça.
Non.